en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui le cinéaste français dont les films sont sans doute les plus vus au monde. Jean-Jacques Haneau, un Oscar, 4 Césars, le réalisateur de La Victoire enchantante, La Guerre du Feu, Le Nom de la Rose, L'Ours, L'Amant, etc. Jean-Jacques Haneau qui a été élu le 21 novembre 2007, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Jean-Jacques Haneau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel, cette question récurrente posée à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Tout de suite, la première question, dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été Jean-Jacques Haneau jusqu'à présent à vos yeux, le moment essentiel ?
Écoutez, le moment clé pour moi est sans doute le jour où j'ai été reçu à l'école de cinéma. Parce que je viens de la banlieue, d'un milieu de français tout à fait moyen, sympathique.
Simple mais respectable, comme on dit.
Absolument.
Votre père était employé des chemins de fer, votre mère
voilà,
secrétaire
était,
de rédaction.
Secrétaire de direction.
Direction,
oui. C'est-à-dire que c'était, comme on disait autrefois, des gens méritants
voilà,
qui avaient acquis, à force de travail, un petit pavillon de banlieue, avec un petit jardin, des fleurs. Donc j'ai eu une enfance tout à fait heureuse. J'étais fils unique, j'avais un petit chien. Un papa et une maman adorables, donc tout fonctionnait très bien. Sauf que lorsque j'ai eu, vers l'âge de 7 ans, l'envie de faire du cinéma, mes parents sont un peu tombés, évidemment, des nues. On ne savait pas du tout dans la famille comment on pouvait faire ce métier de saltimbanque.
À 7 ans, hein ?
Peut-être 8 ans, mais en tout cas, dans ces eaux-là, oui, j'étais un tout petit gamin. C'est en recevant un catalogue d'appareils de photo et d'appareils de cinéma que j'ai eu envie de jouer avec ces mécaniques qui étaient associées, évidemment, au moment de rêve du samedi où l'on m'emmenait au cinéma de la petite localité et où, évidemment, d'un seul coup, le rideau s'ouvrait sur un monde qui n'était pas le mien, qui était le monde du rêve, de l'aventure, des émotions. Car chez moi, si vous voulez, tout était très calme. Il n'y avait pas énormément d'émotions dans ma vie, tout était serein. Et du coup, j'ai eu très très tôt envie de m'aventurer dans ce métier étrange. Alors je me souviens, la première réaction des amis de mes parents était de dire « Quel dommage, un si bon élève !» Et qu'après...
Vous avez quand même fait votre bac latin-grec.
J'ai fait mon bac latin-grec, oui.
Licence de lettres
oui,
et tout.
Oui, vraiment. Mais ça, si vous voulez, c'était en fait en plus. Parce que comme mes parents ne connaissaient personne, la seule manière de s'aventurer dans la vie était à travers l'école laïque et obligatoire. Et je dois dire que je suis infiniment reconnaissant à mon pays de m'avoir financé des études de qualité. J'ai été à l'école communale comme tous les enfants. Ensuite, j'ai intégré les écoles de cinéma nationales où je n'ai pas eu un centime à débourser. Oui, ça s'appelle aujourd'hui Louis Lumière et la FEMIS. Ce sont deux écoles prestigieuses. Et comme il n'y avait quand même pas énormément d'argent à la maison, que mon père était assez malade, il était à la SNCF et il ne pouvait plus... travailler plus longtemps qu'à l'âge de 58 ans, c'était le maximum à l'époque, ou bien je passais cet examen et je réussissais, ou bien j'entrais dans la vie professionnelle. Or, j'ai réussi bien, d'ailleurs, puisque j'étais major de promotion, j'ai intégré l'école technique de photo et cinéma, qui s'appelle aujourd'hui Louis Lumière, qui est une très très bonne école où on apprend la technologie du cinéma. Et c'est grâce à cette filière, alors tout à fait classique et officielle, que j'ai pu pénétrer dans le cinéma et me retrouver... quelques années plus tard, à la tête d'une petite équipe, en train de diriger mon premier film, j'ai été metteur en scène à 19 ans et demi.
Mais est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte, cette histoire extraordinaire de votre mère, alors, lorsque vous aviez 8 ans, vous présentez au directeur de l'IDEC, c'est vrai ça ?
Ah, mais c'est tout à fait vrai, je me souviens encore.
Non, mais il faut un cul au monde,
quoi. Mais non, mais parce que, si vous voulez, mes parents...
Qu'est-ce qu'elle lui a dit ?
Mais je me souviens très bien, parce que moi j'étais très impressionné, j'avais le cœur battant, nous étions allés aux Champs-Élysées où il y avait les bureaux de l'IDEC, ça s'appelait l'Institut des études cinématographiques. Et je me souviens très très bien de l'entrevue. J'arrive donc, moi je suis haut comme trois pommes, j'ai une chaussette, des chaussettes blanches, ma mère m'a mis une belle socket, mais j'en ai une qui dégringole parce que les élastiques ont été ne fonctionnent plus bien. Donc je suis sans arrêt en train de relever ma petite socket, je suis en short de tweed, et le directeur qui s'appelait Rémi Tessonneau nous reçoit et dit à ma mère, alors votre fils ainsi veut faire du cinéma, quel âge a-t-il ? Alors elle se tourne vers moi, elle dit, ben il est là, donc j'avais 8 ans. Et alors ce qui était très amusant, c'est qu'il a appuyé sur un bouton qu'il avait sur son bureau, il a appelé sa secrétaire en lui disant regardez, il y a un petit garçon, il veut faire du cinéma. Alors, cette dame, et je me souviens, elle avait une curieuse façon de parler, elle me dit oh, mais c'est mon petit, tu as envie de faire du cinéma, mais c'est très bien, ça, c'est rien. Et ma mère, qui était très sérieuse, avait sorti un bloc sur lequel avait pris en sténo ce que... En sténographie, vous savez, c'était les choses à l'époque. Et elle avait pris en sténo tout ce que le directeur lui avait dit de faire. Il lui avait dit, comme si par hasard, il continue à avoir l'envie de faire du cinéma, il faut qu'il ait à la fois, qu'il apprenne à la fois des choses scientifiques, parce qu'il y a un aspect matériel et scientifique dans le cinéma. Et puis, évidemment, qu'il aille beaucoup au cinéma, qu'il lise, qu'il s'intéresse à l'histoire. Et c'est comme ça que j'ai fait, que ma mère m'a orienté après sur le latin, le grec et les sciences. J'ai fait une section qui s'appelait A', qui mélangeait à la fois physique, maths et...
C'était le top des élèves à l'époque.
Oui, on était les forts en thème. Oui. Et que, sachant, si vous voulez, que ma seule espérance était d'être bon élève, parce que c'est vrai que je n'avais pas de relation. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui ont accédé à des postes importants en ayant eu une famille qui a pu les aider. Moi, c'était...
Vous êtes la justification de Jules Ferry, quoi.
Ah, tout à fait. Et tout à fait. Et j'en garde véritablement au plan, j'ai envie de dire, moral. J'ai, par exemple, même à l'époque où je travaillais aux États-Unis, j'ai toujours décidé de payer mes impôts en France et en étant résident français afin de rembourser ce que l'État français avait fait pour moi. Donc,
alors, est-ce que ça veut dire que quelques années plus tard, vous ne vous êtes pas senti très à l'aise dans un milieu où vous avez merveilleusement réussi? Parce que je crois que vous avez, est-ce que je me trompe, vous avez fait plus de 500 spots publicitaires.
500, oui, non, c'est ça. 500, oui, oui.
Mais vous êtes là-dedans comme une grenouille sur une boîte d'allumettes, quoi, dans le monde de la pub, non?
Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement gamin, quand on a 19 ans et demi, vous savez qu'on sort avec des diplômes, j'avais un esprit complètement scolaire, et j'avais rien à dire. Il était donc tout à fait impossible que je fasse un long métrage qui ait quelque poids ou quelque sens. En revanche, on m'a proposé de diriger des petites scénettes de 30 secondes ou d'une minute. Et ça me convenait admirablement parce que j'ai un peu continué mes classes, si vous voulez. Mais je l'ai fait avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Et à l'époque, les cinéastes de long métrage ne faisaient pas du tout de films publicitaires. C'était une chose très, très méprisée. Et j'ai eu peut-être une chance ou une malchance, je ne sais pas. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que la télévision française s'est ouverte à la publicité. Il y a eu un appel d'air phénoménal pour la création de films publicitaires. Et que j'ai eu, et tout de suite, énormément de propositions, puisque j'étais le seul jeune homme, avec le désir de faire de la publicité, l'enthousiasme d'en faire, et je me suis retrouvé avec 200 à 300 propositions par an.
Mais est-ce que ça vous a appris beaucoup de choses? Gagner du temps, utiliser les techniques nouvelles?
Ça m'a appris une chose fondamentale, c'est qu'en fait, on peut être soi-même, même dans la contrainte. Ma spécialité est vite devenue celle de celui qu'on appelait quand il y avait un blocage, quand il n'y avait pas d'idée. Alors on me disait, qu'est-ce que vous feriez? D'un seul coup, je lançais quelque chose. Et c'était à moi, si vous voulez, de créer ma petite historiette et de la vendre, entre guillemets, de la faire accepter en tout cas, par des gens dont ce n'était pas le métier. Quand vous vous retrouvez en face de producteurs de rillettes ou de spécialistes du yaourt ou de spécialistes du pneu ou des sous-vêtements féminins, et que vous leur proposez des choses qui vont les déranger, puisque une publicité qui va marquer est une publicité qui n'a pas encore été faite, donc qui est novatrice, mais qui donc est sans référence et qui du coup effraie celui qui va débourser beaucoup d'argent pour parler de sa marque et qui n'a qu'une seule envie, c'est de faire comme son concurrent qui a réussi à dominer le marché. Donc si vous voulez, j'ai appris en fait curieusement dans ce milieu très conventionnel et très convenu et souvent convenable de la publicité à être singulier, à me battre pour mes idées, et ça m'a énormément servi après à Los Angeles. Mais c'est tout le monde pense qu'on apprend en film publicitaire, ce qui est vrai aussi, à raconter les histoires de manière plus dense. Évidemment, quand on a 30 secondes et qu'il faut à la fois vendre un produit et raconter une petite histoire, il faut bien choisir ses angulations, trouver les mots qui font mouche et avoir une véritable rigueur au niveau de l'organisation des images. Et ça, c'est vrai que quand on a cette formation, ça reste à vie. Mais si vous voulez, c'est au-delà que j'ai appris des choses encore plus importantes et je n'aurais jamais eu le plaisir de vie et professionnel que j'ai eu à Los Angeles, enfin à Hollywood, comme disent les gens, si je n'avais pas eu cette expérience de la publicité où j'ai réussi donc à m'imposer. Puis alors comme j'avais beaucoup, beaucoup d'offres, j'étais extrêmement violent. C'est-à-dire que si les gens n'étaient pas d'accord sur mon casting, je le disais, je prends ma musette et je m'en vais. Je prenais donc mon petit sac et je disparaissais. C'est-à-dire que c'est...
Donc pas commode, quoi.
Pas du tout commode. Pas j'étais d'une arrogance que je n'ai plus maintenant.
Alors vous parliez comme événement donc l'IDEC, mais il y a eu un autre événement quand même, parce que qui pour vous a été un choc terrible, c'est le service militaire.
Ça a été un choc incroyablement bénéfique, puisque à l'époque où j'étais à la deuxième école de cinéma, puisqu'après la première, j'ai donc intégré la seconde, qui était l'IDEC. J'ai donc retrouvé le directeur dont je vous ai parlé et qui a réappuyé sur son bouton pour faire venir la secrétaire qui m'a redit « C'est vous le petit garçon ?» Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Et pendant ma scolarité, on m'a fait signer un papier comme quoi j'acceptais de faire de la coopération plutôt que d'aller en uniforme faire mon service militaire qui, à l'époque, je vous le rappelle, était obligatoire. Et donc, j'ai accepté bien volontiers de faire de la coopération, pensant que dans 3 ans, ça me semblait très, très loin, vous savez. Et en fait, effectivement, un jour, en ayant d'ailleurs essayé, je le confesse, de me faire réformer, mais ça n'avait pas du tout marché, je me suis retrouvé dans un avion avec, pour destination Douala, Cameroun, et avec la conviction que j'allais détester ça, que j'allais de toute façon être très désagréable et qu'on allait me renvoyer en France. Et évidemment, les choses se sont passées de façon diamétralement opposée. À la seconde même où la porte de l'avion s'est ouverte, je suis tombé en amour avec l'Afrique. J'ai adoré ce bouleversement que la civilisation africaine, l'ébranlement que ça a provoqué, la découverte de moi que ça a généré.
C'est-à-dire que ça vous a remis en cause, c'est pas simplement le parfum, les odeurs, tous ces machins-là. C'est personnellement, ça vous a remis en cause.
Ah, mais votre manière d'être. Complètement bouleversé. J'ai compris, je me souviens, je suis arrivé un jeudi. Le samedi, j'étais emmené par un nouvel ami dans un village de brousse et j'ai rencontré le chef du village qui ne parlait pas du tout français. Moi, je ne parlais pas non plus l'ehondo qui était la langue de la région. Et je me suis aperçu au bout d'une demi-heure que je comprenais beaucoup mieux cet homme que mes voisins d'université ou mes collègues d'école de cinéma. J'ai aimé l'humanité et l'universalité de cet homme qui m'accueillait dans sa petite maison de Pisée. Et si vous voulez, je pense que l'Afrique est toujours un très grand révélateur. Ou bien on y adhère, on adore, ou bien on rejette et on n'y retourne plus jamais. Et moi, ça a été un tel coup de foudre faramineux que j'ai décidé, pendant mon séjour, j'étais encore tout gamin, j'avais 21 ans, 22 ans, j'ai décidé que mon premier film serait un film sur l'Afrique, en Afrique, à propos de l'Afrique. Et je me suis mis à rechercher pendant ce séjour des sujets de long métrage. Et c'est ainsi que j'ai trouvé le sujet de mon premier long métrage qui s'appelait Victoire enchantant, qui a rapporté à l'Afrique donc son premier Oscar.
Oui, c'est ça. Du meilleur film étranger. Donc, pour un premier film, avoir un Oscar, c'est quand même pas mal.
C'est un coup de bol.
C'est... Mais alors, ce film avec un Oscar n'a pas très très bien marché en France.
Et non, parce que c'est un film qui a dérangé à l'époque. Vous savez, les peuples n'aiment pas qu'on se moque d'eux-mêmes. Et c'était un film très moqueur sur les coloniaux français, qui était inspiré d'un tas de lectures que j'avais faites et de mes propres expériences. Et ce film a eu un destin très, très contrasté. Il n'a jamais marché dans aucun pays qui avait eu un passé de colonisateur. Et en revanche, il a très, très bien fonctionné dans les pays qui se sentaient du côté des colonisés. Oui, mais comme c'était un film très ironique, je ne suis pas quelqu'un de brutal dans mon anticolonialisme. Je pense que, si vous voulez, la colonisation, comme les évangélisations, ont apporté des éléments positifs, aussi beaucoup d'éléments négatifs. Mais quand on voit où est l'Afrique aujourd'hui, on s'aperçoit que la période coloniale reste comme une espèce d'âge d'or à l'époque.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire sur ce que vous préparez actuellement, Jean-Jacques Hanau ?
Écoutez, ce qui me paraît essentiel, c'est que je prépare actuellement 2 films. L'un que je vais tourner à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mars et qui me rapproche du monde musulman. D'ailleurs, c'est un enchaînement parfait avec l'Afrique puisque j'ai découvert, moi, le monde musulman dans le nord du Cameroun. J'ai découvert un islam incroyablement tolérant, très amical, très aimable. J'avais, dans le service cinéma que j'avais été amené à diriger à ce jeune âge, la moitié de mes amis étaient musulmans. Et je dois dire qu'évidemment, j'ai été préparé à un islam très, très différent de celui qui fait les gros titres de la presse actuellement. Et que voilà des années que je suis allé à la rencontre des différents pays musulmans dans le monde. Ça va de l'Indonésie à la Mauritanie, ça va de Zanzibar au Liban ou à la Jordanie. Et cette curiosité personnelle m'a amené à faire un film qui se situe dans les années 30, au tout début de la découverte du pétrole.
On peut donner le titre parce qu'il est très beau.
Ça s'appelle Soif Noire, oui. Et puis après, j'ai un film qui se passe en Mongolie.
Mais alors, en ce qui concerne Soif Noire, on sait que vous, lorsque vous préparez un film, vous vous imprégnez de la culture de l'époque, la culture des lieux. Franchement, est-ce que vous avez l'impression que cette découverte du pétrole dans ces pays-là, au moment où vous situez votre action, hein, 1930, je crois, c'est quelque
chose comme ça. Oui, 1932.
Est-ce que vous avez l'impression que ça a remis en cause les fondements de la culture du Moyen-Orient, cette culture exceptionnelle, ou qu'au contraire, cette culture reste là, très forte, très solide ?
Non, c'est un bouleversement, si vous voulez. Ce qu'il y a de fascinant, c'est de voir que là où l'on a découvert du pétrole, la société est devenue complètement dysfonctionnelle. Et les États qui, aujourd'hui, ont une stabilité politique et, j'ai envie de dire, même un plaisir de vie, ce sont les États où il y a peu de pétrole ou pas du tout. Le pétrole a créé un désastre, comme les richesses mal gagnées provoquent des drames.
Vous faites un lien, par exemple, entre cette soif de l'or noir donc, de ces années-là et la soif de l'or en Californie, deuxième moitié du XIXe siècle ?
Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas la même chose, parce que là, vous avez finalement des Bédouins qui, sous le sabot de leur chameau, ont vu des étrangers venir récolter une denrée dont ils n'avaient que faire, et qui les a rendus riches, mais qui les a séparés de leur culture initiale. Et c'est un très grand malaise. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a un mouvement qui fait que dans la plupart des pays pétroliers, on essaye de retrouver une culture qui a été oubliée. Aujourd'hui, si vous voulez...
On essaye vraiment.
Ah oui. Un pays comme le Qatar a à sa tête des gens qui se donnent du mal pour essayer de retrouver, ne serait-ce qu'à travers un musée islamique, à travers une très grande collection de peintures orientalistes, à travers le désir d'aider à la création d'un cinéma arabe qui se fait hôte d'une très grande chaîne de télévision en arabe qui est Al Jazeera. Donc si vous voulez, il y a un désir de réappropriation.
Et votre deuxième projet, votre second projet ?
Depuis très longtemps maintenant, fasciné par l'Asie. Vous savez, j'ai tellement bourlingué en Afrique que le goût de la rencontre de civilisations différentes m'a incité à un jour m'aventurer en terre asiatique. Je l'ai fait à travers un film qui était L'Amant, d'après Marguerite Duras. Et la clé pour moi était que ça se situait dans un monde colonial que j'avais donc bien appris à connaître à travers mon premier film qui se passait en pleine époque coloniale. Donc j'ai rencontré le Vietnam, l'Indochine d'autrefois et le Vietnam d'aujourd'hui, en tout cas des années 90, à travers ce film. J'en ai conçu une grande émotion qui m'a poussé à rechercher, à faire un autre film parce que je voulais comprendre un peu mieux la spiritualité. Je savais que j'étais ému par le pays et je comprenais qu'il y avait des raisons autres que, évidemment, le climat et la gentillesse des gens et les plaisirs de la gastronomie. Et c'est comme ça que j'ai été amené à faire 7 ans au Tibet.
Oui, c'est ça.
Et à m'entourer de sages des cultures asiatiques. Et puis j'ai continué d'ailleurs avec un film plus familial qui s'appelle Deux frères que j'ai tourné au Cambodge. J'ai donc vécu au Cambodge pendant un an.
C'est ça, l'histoire des tigres.
Avec deux tigres, oui, deux tigres dans les temples.
Des jumeaux séparés, c'est ça ?
Voilà, oui.
Donc voilà le second projet. Mais la diversité est le signe majeur de votre carrière. Mais il y a eu après, donc on parlait du premier film, La Victoire en chantant, mais il y a eu ensuite un film très curieux, parce que je me demande si vous ne l'avez pas tourné aujourd'hui. Or, il a 33 ans ce film, c'est Coup de tête. C'est des supporters de foot en province. Moi qui suis un footeux qui va au parc à tous les matchs, je pense souvent à votre film parce que c'est prémonitoire ce film. Vous pensiez qu'il y aurait cette évolution
Mais si vous voulez,
avec une logique
Je sentais qu'il y avait là, comme le foot est quelque chose d'incroyablement populaire, à partir du moment où vous entraînez les masses, vous entraînez aussi des masses financières. Et que, même si à l'époque le foot n'avait pas pris la tournure qu'il a pris aujourd'hui, la tournure à la fois planétaire avec des sommes colossales mises en jeu, il y avait le même phénomène. C'est ça qui est toujours intéressant dans le microcosme, si vous voulez. C'est qu'en étudiant une toute petite équipe, d'une toute petite bourgade, d'une toute petite province de la France...
Aidé par le talent de Patrick Devers, hein, il faut le dire.
Le talent gigantesque et celui de Francis Weber qui a beaucoup contribué à l'écriture du scénario. J'avais envie de parler, en vérité, si vous voulez, des mouvements de foule. J'avais envie de parler de la notoriété et des caprices de la notoriété et même de l'invraisemblable phénomène de la célébrité. Et ce que je voulais, mon propos, c'était de montrer qu'on pouvait parfois obtenir une très grande notoriété, non seulement par hasard, mais par erreur. Ce qui était le cas là, il s'agissait d'un coup de pied malencontreux qui avait marqué le but décisif. Je dis bien un coup de pied malencontreux.
C'est presque l'histoire de Kostadinov, pour ceux qui s'intéressent au foot.
Mais oui, si vous voulez, c'est étrange. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai puisé dans mon expérience de film publicitaire, dont je sortais, et que j'ai écrit cette histoire avec un premier ami qui s'appelle Alain Godard, qui était un de mes scénaristes fétiches. J'ai écrit cette histoire avant qu'elle ne m'arrive à moi. Puisque, grosso modo, moi, j'étais une petite star du film publicitaire. J'en voyais bien, évidemment, les limitations. C'était dans un milieu très limité, qui était celui des agences de publicité. Et puis, Après, j'ai fait ce premier long métrage qui a été un bide total avant, 3 points de suspension, d'avoir l'Oscar. Donc j'ai connu une période où plus personne ne me parlait. J'avais plus de propositions et tout le monde me parlait avec condescendance. J'étais un raté, grosso modo. J'étais un crétin, un mauvais. Et tout le monde était très content que cette petite star de la pub se prenne un bon coup sur le groin. Et puis du jour au lendemain, ça y est, je suis de nouveau dans Match et je fais des couvertures de magazines. Mais je suis le même gars, moi. J'ai fait le même film, je n'ai pas changé. Ben, simplement, là-bas, au loin, il a eu une récompense surprenante, inopinée. C'est un coup de hasard, un coup de bol. Mais probablement, si vous voulez, je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire ce film. J'étais peut-être intéressé par ce qui s'était passé, qui était l'inverse. J'étais une petite star qui était devenue plus rien. Et là, je racontais l'histoire d'un mec qui était rien et qui devenait une star. La particularité aussi de ce film Coup de tête, c'est que c'est un film qui a disparu de la circulation pendant 20 ans. Et je ne sais pas pour quelle raison étrange, il est redevenu à la mode.
Et parce qu'il raconte quelque chose d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est finalement cette consécration un peu inespérée qui vous a amené après à avoir l'audace de faire des fresques peu de cinéastes français ont pu réaliser. Hein. Vous en avez fait 6, au fond, des films. Je ne dis pas un grand spectacle, parce que ce n'est pas ça. C'est pas
pourquoi
le, c'est pas exactement
aussi.
Le mot. Il y a un contenu très profond. Je pense donc à La guerre du feu, Le nom de la rose, L'ours, ça c'est la première série. Après, il y a La pause avec l'amant. Et après, il y a les 3 autres, Les ailes du courage. Il y a donc ensuite
7 ans au
Tibet. Et il y a Stalingrad. C'est-à-dire 6 films qui suffiraient à remplir la carrière d'un seul cinéaste. Comment vous êtes lancé dans un truc comme ça? On ne se dit pas, mais non, je ne peux pas. On y va, on fonce.
Si vous voulez, d'abord, il y a eu cette expérience des 500 films publicitaires. Quand j'ai fait mon premier film, j'avais quand même déjà 8 ans, je crois, de me souvenir d'expérience, où j'étais chaque jour, soit dans une salle de montage, dans une salle de casting, en train de faire des post-synchronisations, des mixages, des musiques, faire des repérages, être évidemment sur des plateaux de tournage. Et j'avais déjà tourné, évidemment, dans des avions à réaction, dans des hélicoptères, dans des sous-marins. J'avais fait des films nautiques, j'avais fait des ballets, j'avais fait des films d'action, des films de cascade. J'avais une expérience très large. J'avais dirigé des animaux pour des films de croquettes ou de... j'avais dirigé des bébés, j'avais dirigé beaucoup de non-professionnels. Mais tout ça, c'est des micro-expériences phénoménales. Et du coup, quand j'ai abordé le long-métrage, pour moi, le long-métrage, c'était la récompense. C'était le rêve. C'était ce que j'avais rêvé de faire quand j'étais à la Cinémathèque. Alors moi, j'adorais Kurosawa, j'adorais Pudovkin, j'adorais Eisenstein, j'adorais les grands maîtres de films qui me faisaient rêver, qui m'embarquaient.
Et Jean Renoir.
Et Jean Renoir. Alors
pour une autre raison, oui.
Jean Renoir pour sa générosité d'âme, son cœur.
Son appétit des autres. Son...
Oui, sa manière de montrer que tout le monde avait raison, ou tout le monde, en tout cas, avait de bonnes raisons. Il disait des choses très belles comme « il n'y a pas de cheval noir sans une tache blanche » et ce qui m'intéresse dans le cheval noir, c'est sa tache blanche et je vais faire des gros plans sur la tache blanche. C'est très joli et c'est vrai que c'est une chose qui m'a tellement enthousiasmé que après j'ai été influencé, oui bien entendu, par ses maîtres. Et que comme j'avais mon gagne-pain, qui était la pub dans laquelle j'étais quand même très libre, pour moi le long métrage, il n'était pas question de faire des films... pour plaire aux autres, c'était moi, pour me faire plaisir à moi, c'était très égoïste comme démarche, mais je crois finalement qu'au bout du compte, toute démarche artistique, elle est là. Elle doit être l'expression d'un élan sincère.
Tout ça, donc, qu'on touche l'universel qui est dans les autres, quoi.
Oui, en pensant toujours qu'on va faire un truc que personne n'ira voir, et que ça n'a pas d'importance. En plus, vous voyez, c'était ça qui m'a, je crois, sauvé. Et alors, j'ai été très surpris de voir que finalement, des gens étaient allés en grand nombre voir ce premier film qui était la guerre du feu. Dans la plupart des pays du monde, les gens étaient allés nombreux voir ce film au cinéma. Et du coup, ça m'a donné l'envie d'aller à une autre passion, qui était le Moyen-Âge, avec Le nom
polar,
de la rose.
Un vrai polar.
Un vrai polar, mais dans un univers qui me fascinait depuis mon enfance. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à l'époque où j'avais 7 ans et que je voulais faire du cinéma, j'avais déjà commencé une collection de photographies sur les monastères de France. Et que mes parents, qui étaient, avaient cette gentillesse, mon père étant à la SNCF, on avait des billets gratuits, je faisais des programmes en lisant le guide Michelin et je faisais alors, par exemple, tous les calvaires bretons, ou alors les abbayes de Provence, ou les églises romanes d'Auvergne. Et c'était mes vacances. Et je faisais plein de photos. Donc j'ai essayé à chaque fois, dans toutes les époques de ma vie, de m'accrocher à une passion personnelle. Et donc, Le nom de la rose a été une autre passion personnelle. Tout le monde avait pensé que le film n'aurait aucun succès parce que qui voulait, me disait-on à l'époque, aller voir un film de moine au XIVe siècle? Finalement, les gens sont allés parce que, justement, c'était différent.
Avec un César aussi à la clé. Enfin bon, à travers toute cette diversité, hein, parce que donc on a parlé là de 6 des 8 films, il y a une patte à nos, c'est incontestable. Mais qu'est-ce qui la définit? Mais le style Anno, c'est quoi?
Je serais bien incapable de le définir parce que je fais à ma main, je fais à mon goût.
Que de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a toujours cette idée d'initiation chez vous, en même temps d'émerveillement devant la splendeur du monde, mais sans le côté gâteux d'un certain nombre de gens aujourd'hui de l'environnement. Vous savez ce qu'est la dureté du monde. Quand on voit l'ours, on n'est pas là en train de compter fleurettes. Et il y a toujours cette recherche de l'universel, au fond, et des symboles. Donc, il y a un style, quand même.
Oui, mais voyez, le style, il n'est pas conscient. C'est-à-dire que je choisis des sujets qui me parlent, ou je les écris moi-même. Quand vous parlez de l'initiation, de la découverte de l'eau, de l'équateur, c'est peut-être cet émerveillement que j'ai eu quand j'étais enfant de découvrir les régions françaises, de découvrir l'autre. Ça m'a toujours procuré beaucoup de bonheur. Et puis, évidemment, ce bouleversement de l'Afrique, où là, je suis allé à la rencontre de cultures qui étaient vraiment très différentes de la mienne, et où j'ai adoré cette expérience, et j'ai adoré me fondre dans cette Afrique de la forêt, puis après celle du Sahel, on parlait du monde musulman. J'ai eu envie, oui, de comprendre, de partager. Et comme ça me procure beaucoup de bonheur, j'essaye de faire des films dont la fabrication elle-même me provoque ce bonheur. Par exemple, j'adore être transporté le matin à l'aube au sommet d'une montagne et voir le soleil se lever. Et,
c'est un luxe, hein.
Oui, et bien sûr. Et y recevoir mon équipe. Et aussi, vous savez, faire plaisir à mon équipe en l'émerveillant, en lui montrant l'endroit où on va tourner. Et d'y tourner là. Alors, c'est très, voyez-vous, presque enfantin. Mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir à moi. Et c'est vrai que j'ose dire que j'aime faire plaisir aux autres. Pendant longtemps, ça m'embêtait, ça faisait un peu niais de dire ça. Mais je suis comme ça depuis que je suis gamin. J'aime pas faire du chagrin. Et au contraire, j'aime bien transmettre des choses qui vont améliorer le quotidien.
Alors, comme il ne nous reste qu'un quart d'heure, on va sauter certaines questions. On va sauter la 3, tiens, ce qui vous frappe dans le monde actuel. On va passer à la 4 parce que j'ai hâte d'entendre votre réponse. Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel, quelle est pour vous la plus grande hypocrisie de notre temps?
L'hypocrisie, elle est aujourd'hui très liée au malheur du monde. L'hypocrisie de la démocratie, par exemple.
C'est drôle parce que c'est une réponse qui vient assez souvent, ça.
Oui, parce que...
Et les droits de l'homme.
Bien entendu, on agite ça pour garder le monde en paix, mais si vous voulez, c'est un monde du mensonge où les riches profitent des moyens de la démocratie pour asseoir leur position avec une morgue absolument terrifiante. Ce qui me trouble beaucoup, c'est que l'ensemble du monde, ce qui s'est globalisé, c'est l'appât du gain. Il y a un mot anglais, c'est « greed ». Et cette rapacité de l'amoncellement des richesses matérielles aux dépens des autres, c'est-à-dire sans aucun respect de l'autre, sans aucun sens de la société, je trouve tragique qu'on puisse ne pas du tout considérer le mal qu'on fait à l'autre en voulant accumuler pour soi des richesses inutiles. Je suis fasciné par un monde qui, par exemple, emprunte pour être obèse. Le modèle américain, pourtant j'ai beaucoup vécu aux États-Unis, j'ai beaucoup d'amitié là-bas, mais je suis fasciné par le mal qu'a fait cette pensée américaine qui, au bout du compte, consiste à accumuler le plus de choses possibles pour soi-même tout de suite. Ces différents éléments, j'ai un ami qui fait une conférence qui s'appelle « Me More Now ». Moi, plus, tout de suite. Et ça, si vous voulez, c'est un modèle nouveau. Les années d'entre-guerres, tout ça, étaient différentes parce qu'il y avait, les populations d'Europe en tout cas, sortaient d'un milieu paysan. Grosso modo, nous étions obligés de nous entraider. Là, ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'on a mis effectivement les droits de l'homme, le respect de la démocratie comme une espèce de dogme absolu. Mais vous savez, la démocratie, regardez comment ça fonctionne, il suffit de détourner de l'argent pour payer des campagnes publicitaires qui vont de toute façon vendre du mensonge pour avoir les voix. Donc c'est une dictature qui est organisée différemment, mais c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir et toujours les mêmes qui
en profitent. C'est peut-être la moins pire quand même.
Vous savez, moi je connais tout un tas de démocraties dans tout un tas de continents qui s'appellent démocratie, et généralement populaire d'ailleurs, ça s'appelle république populaire de quelque chose, elles n'ont rien de républicaine et rien de populaire.
Alors on va sauter la cinquième question, donc sur l'espoir. On va passer à la sixième, parce que comme le temps passe. Sixième question de notre série L'Essentiel. Quel a été, vous n'êtes pas obligé de répondre, le plus grand échec de votre vie?
Écoutez, c'est un échec de vie personnelle qui a été très très douloureux, qui a été en fait l'explosion ou l'implosion de mon premier mariage. Moi, j'étais fait pour être marié pour l'éternité. Et j'ai un peu rechigné à aller à la mairie, mais une fois que c'était fait, moi, je n'ai même pas imaginé que ça pouvait s'arrêter. En chemin est venu un enfant, et puis ma femme a changé d'avis, que finalement, je n'étais pas l'homme qu'elle souhaitait. Elle m'a pas mal méprisé, je dois dire. Elle a trouvé que j'étais un très mauvais metteur en scène, que j'étais en tout cas pas l'homme qu'il lui fallait, et elle m'a planté, quoi. Comme on voit dans les films, vous savez, un jour, elle m'a dit, ben, je me tire, mon pote. Elle m'a dit ça comme ça, je me tire, mon pote. Bon, elle a pris sa valise et je l'ai vue partir à travers le rideau. Elle est rentrée à la station de métro, un jour où il pleuvait. Et alors après, évidemment, il y avait un enfant qui était là, qui ne savait plus où sa mère était. Enfin bon, si vous voulez, ça a été une chose qui, en même temps, cette chose-là, c'est finalement fort bien terminée parce que j'ai épousé une femme que j'adore, avec laquelle je suis depuis maintenant 35 ans, qui est ma collaboratrice.
Vous êtes un homme de fidélité, au fond.
Oui.
Et de passion en même temps. C'est rare.
Oui, mais vous savez, j'ai une passion. La passion du cinéma est très déstabilisatrice. Et du coup, avoir une vie stable me semble important. J'ai suffisamment d'aventures dans ma vie professionnelle. Vous savez, c'est étourdissant, la vie de cinéma. On passe d'un milieu à un autre, on passe du succès à l'échec, on passe de la crainte à l'espérance. C'est pour ça que dans ces milieux-là, dans tous les milieux du spectacle ou du sport, vous avez beaucoup de gens qui absorbent tout un tas de substances. Oui, pètent les plombs, etc., deviennent fous. Donc il faut calmer le jeu. Vous voyez, il faut absolument...
Donc la femme qui est à côté de soi est très importante.
Mais elle est fondamentale, bien entendu. Bien entendu. Mais la pauvre, c'est extrêmement difficile. Moi, je pars sans arrêt. Je ne sais pas la veille ce que je vais faire le lendemain. Je pars au bout du monde. Je dis que je reviens le lundi. En fait, je reviens 15 jours plus tard. C'est très déstabilisant. Enfin, c'est comme ça qu'on a réussi à trouver une stabilité. Mais donc, comme toujours, le plus douloureux moment de ma vie a été aussi un enrichissement au plan émotionnel. Parce que je crois qu'on ne peut pas faire du cinéma ou de la littérature, de la peinture, sans avoir vécu des moments douloureux.
Ça veut quand même dire que vous avez quand même en vous un certain appétit du bonheur, parce que je pense à un autre épisode, puisque vous évoquez très, très simplement un épisode très précis de votre vie privée. Moi, je voudrais en évoquer un autre. C'est quand même étonnant. À 19 ans, je crois, vous apprenez de votre mère que vous n'êtes pas le fils de votre père. Ça aurait pu en écraser plus d'un, ça.
Ah ben non, mais je me suis mis immédiatement dans la seconde à adorer mes deux pères.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre tête?
Dans ma tête, il y avait une espèce de mystère, un flou, quelque chose qui est, dans lequel je n'avais jamais voulu m'aventurer, parce que moi, je ne connaissais pas même l'idée de l'adultère. J'avais bien lu ça, mais ça faisait partie de la littérature. Mais il y avait des signes qui étaient assez curieux dans ma vie, des choses que j'entendais, qu'on me disait, qui ne faisaient pas sens, comme on dit maintenant. Et lorsque ma mère a été amenée à faire cette révélation, je me souviens, je me suis penché, je me suis regardé dans la glace, j'ai tout de suite vu mon père génétique en me regardant, et j'ai tout de suite compris quel était le bonheur d'avoir été élevé par l'homme qui m'a élevé.
Comment lui a pris ce coup? Parce que ça ne peut pas être facile pour lui.
Je n'ai su que très tard qu'il le savait.
Et le fait de savoir que vous saviez?
Mais il ne savait pas que je savais. Donc, si vous voulez, ça fait partie des grands non-dits qu'il y a dans les familles. Mais en tout cas, effectivement, ce qui est peut-être surprenant, mais ça, je me souviens à quel point cette révélation a été complètement libératrice et génératrice immédiatement d'amour paternel qui ne s'est pas partagé, mais qui s'est dédoublé. Et oui, parce que j'avais beaucoup d'admiration pour ce père génétique que je connaissais un peu, qui était assez distant de moi, mais oui, je le trouvais formidable. Et je me suis mis immédiatement à trouver absolument formidable l'homme dont je porte le nom. Parce que j'ai remercié immédiatement dans mon cœur ma mère qui a eu la sagesse de rester avec cet homme-là qui m'a donné une éducation de probité, de sens du devoir, enfin tout un tas de notions, peut-être un peu démodées, mais qui m'ont énormément servi dans la vie.
Septième et dernière question récurrente de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, Jean-Jacques Hano, quelle est votre motivation essentielle dans la vie? Enfin, on a bien senti à travers toutes vos paroles qu'il y avait un fil conducteur, mais la motivation essentielle aujourd'hui? Pourquoi vous vivez, au fond?
Écoutez, parce que j'aime ça.
Ça, on l'avait senti. On a senti un goût du bonheur.
Assez hédoniste. Et c'est vrai que les films que j'ai à faire, que j'ai commencé, sur lesquels je travaille avec ardeur depuis déjà des mois, me donne un infini plaisir, parce que c'était encore le plaisir de la découverte, le plaisir du partage, le plaisir de la transmission aussi. J'aime bien, oui, transmettre. Une des choses qui me fait plaisir, c'est que je vais aller dans des pays et je vais avoir des équipes qui seront souvent des équipes soit jeunes, soit encore pas complètement formées. Et ça me plaît de venir avec des équipes de gens hautement qualifiés et qui vont, en plus d'avoir le bonheur de faire un film qui nous plaît, d'apporter quelque chose et de laisser finalement une petite trace de notre passage. On a eu cet énorme bonheur au Cambodge quand nous avons fait ce film de frères. Je crois que nous étions 150 Français à venir dans ce pays où nous avions une équipe de 500-600 personnes et que nous avons encore des liens personnels avec tous les membres de ces équipes. Et si vous voulez, ne serait-ce que ça, quel bonheur inouï d'être en osmose avec des gens qui, eux-mêmes, nous apportent énormément en nous faisant découvrir d'autres manières de penser et de vivre.
C'est-à-dire qu'à vous entendre, on a vraiment l'impression que vous êtes non seulement fidèle à l'enfant de Draveil, mais à la limite, vous avez presque réalisé plus que ses rêves, non ?
Ah, mais je ne savais pas qu'on pouvait avoir une vie si agréable. Je n'avais pas l'idée. Je me pince, je me dis, mais comment c'est possible que ce soit aussi gai, aussi varié, aussi enrichissant, chaque journée est enrichissante, ça n'a de cesse. Alors du coup, oui, c'est très vivifiant.
Vous pourriez nous donner la recette, parce que quand même, c'est pas facile, un homme heureux comme ça, ça court pas les rues.
La recette, c'est d'essayer d'être fidèle à ce qu'on croit, vous savez. Il n'y a pas tellement d'autres solutions.
Donc, depuis le début, vous nous dites ça, finalement. La formation qu'on reçoit enfant est essentielle, et le fait d'avoir vraiment dû assumer des valeurs très tôt, c'est fondamental.
Oui, et puis aussi, je crois, si vous voulez, il faut avoir confiance dans les idées qu'on porte. C'est-à-dire que, peu à peu, je sais une chose absolument, c'est que, bien entendu, mes idées, elles sont personnelles et il y en a beaucoup qui ne les aiment pas. Comme il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout mes films, j'ai travers ma vie énormément de mauvaises critiques, des mauvaises critiques épouvantables.
Ce que je disais au début, vous êtes le cinéaste français le plus vu au monde, alors il y a quand même des gens
compense,
qui vous aiment.
Ça compense. Je n'ai pas du tout la prétention de plaire à tout le monde et je n'en ai pas le désir. Mais je me suis aperçu d'une chose, c'est que quand on dit ce qu'on pense et quand on fait ce qu'on dit, eh bien, même si vous faites quelque chose que les autres n'aiment pas, au moins, vous, vous êtes dans vos bottes. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas trahi vous-même. Et je crois que les grands déséquilibres, c'est quand vous essayez de vous convaincre que vous faites quelque chose de bien, alors qu'au fond de vous, vous faites quelque chose de mal. Je connais par exemple beaucoup de producteurs de cinéma qui font des films ultra-violents et qui donnent leur argent à des ONG bouddhistes. Parce que pour compenser l'extrême violence que l'on déverse sur les écrans pour gagner beaucoup d'argent, après il y a de la culpabilité et on verse un peu de 3% des bénéfices à des sociétés qui prônent la non-violence. En oubliant évidemment que le cinéma a 40 000 fois plus de puissance que ces pauvres ONG qui essayent de faire le bien dans le monde. Et donc, et bien entendu que ces gens-là courent chez le psychanalyste chaque matin en tremblant et en avalant des substances. Comment voulez-vous être heureux quand vous êtes écartelé comme ça ? Alors que si vous vous résignez à faire quelque chose qui est exactement ce que vous pensez, sans concession, et que vous allez avec votre cœur, même si vous rencontrez 200 personnes qui vous disent que ce n'était pas ça qu'il fallait faire, au moins vous, quand vous vous regardez dans la glace le matin, ben vous avez voulu faire ça, vous êtes trompé, et ce n'est pas grave. Ce n'est pas un drame de se tromper. Ce qui est un drame, c'est de faire contre son sentiment.
Et vous, le matin, vous avez le plaisir de regarder par la fenêtre, vous pouvez regarder la coupole de l'Institut,
oui,
pratiquement.
Absolument. Ah, ben c'est un plaisir formidable. Et si vous voulez, c'est un plaisir que, en plus de ça, je n'ai pas hérité, moi. C'est un plaisir qui est venu petit à petit en travaillant.
Jean-Jacques Hanau, merci et bonne chance pour le tournage Soif Noire. Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci.